France Inter.
Je vais parler lentement pour la traduction. Le documentariste iranien et cinéaste social, comme il le revendique, Jafar Panahi, a été considéré dès son deuxième long métrage comme un ennemi du régime dans son pays. Gardant une position radicale et courageuse, malgré les multiples censures, interdictions et emprisonnements, celui qui ne peut envisager l'exil a remporté un léopard, un lion et un ours d'or, respectivement pour ses films Le Miroir, Le Cercle et Taxi Téhéran. Il collabore au début de sa carrière avec le réalisateur Abbas Kiarostami, en étant son assistant réalisateur sur Au travers des oliviers, puis en l'invitant au scénario du Ballon blanc, le seul de ses films qui sortira en salle en Iran. En 97, il réalise Le Miroir sur une écolière qui sera bannie des salles, comme tous les films qui suivront, parmi lesquels Sang et Or ou Hors-jeu, dans lesquels des jeunes filles se déguisent en garçons pour pouvoir assister à un match de football, film qui eut l'ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin. En 2010, Jafar Panahi est condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 20 ans d'interdiction de faire des films, d'avoir des activités politiques, de voyager ou de donner des interviews pour avoir participé l'année précédente aux manifestations qui ont suivi la réélection controversée d'Ahmadinejad et assisté à la cérémonie organisée en mémoire d'une jeune manifestante tuée. Il passe 86 jours à la prison d'Evin, à Téhéran, avant d'être libéré sous caution. À partir de là, ses films se passent en huis clos et se tournent vers l'intérieur. Ceci n'est pas un film, est réalisé en secret, dans son appartement, Pardé dans une maison aux rideaux tirés, et Taxi Téhéran dans une voiture qu'il conduit comme chauffeur de taxi. Dans Trois visages, il montre le désarroi de trois femmes de générations différentes depuis la révolution islamique. En 2022, le réalisateur manifeste devant la prison d'Evin contre l'incarcération de son confrère Mohammad Rasoulov, co-signataire avec lui d'un texte appelant le régime à renoncer aux armes à feu face aux contestataires. Il est de nouveau incarcéré et se voit libéré après une grève de la faim. Les 7 mois qu'il passera en prison lui inspirent l'histoire de son dernier film, Un simple accident. Palme d'Or à Cannes est actuellement en salle, dans lequel un groupe d'anciens prisonniers se demande s'il faut tuer l'homme que l'un d'eux a reconnu comme étant leur ancien tortionnaire sans en être tout à fait sûr. La traduction ce soir est assurée par Assal Bagheri. L'introduction était longue, mais il fallait quand même une bonne remise en contexte. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Jafar Panahi.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Que film on termine.
Le fait que j'ai terminé mon film.
Vous êtes heureux à chaque fois que vous finissez un film?
Oui,
parce que quand tu veux commencer un travail, tu te demandes si tu vas finir le film. Parce que tous les jours, il y a beaucoup d'angoisse. Il y a aussi la responsabilité de ton équipe. Et tu as quand même aussi la responsabilité de finir le film. Je me rappelle, je voulais faire un film sur la guerre.
Hein.
Et j'ai mis 5 ans pour ce film. Et je me disais, est-ce qu'il y aura un jour où je pourrais faire ce film? Mais ça ne s'est jamais passé comme ça pour ce film-là. Je pense que ça aurait été mon meilleur film. Alors, quand tu fais un film, oui, et quand c'est fini, il faut être heureux à la fin.
Il n'est pas trop tard pour ce film et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Il paraît que la chose la plus difficile avec laquelle cohabiter quand on est humain, c'est l'incertitude. Comment faites-vous ?
L'incertitude à propos de quoi exactement, vous voulez dire ?
En général, c'est-à-dire vous particulièrement, vous pouvez être inquiété dans la rue, en Iran à chaque moment, vous ne savez pas si vous pourrez terminer un tournage, vous ne savez pas quand vous serez arrêté, vous avez déjà été arrêté 2 fois ?
Non.
اون به زیاد من واقعا روش اصلا
فکر نمی کنم.
ببینید خیلی ساده
است.
این مسئله همیشه تو هستش توی
کشورون
به خصوص بعد از زن زندگی آزادی
خب
همه خانوم ها فرض کن که
beaucoup de femmes
شرایط هستن
sont dans une situation d'incertitude.
روز قبل اومدن و بدون جا بودن.
La veille elles étaient dans la rue sans voile, après la police est venue les a arrêtées mais le lendemain elles reviennent en fait dans les rues. Donc
Donc
l'incertitude, c'est comme ça, mais elle ne doute pas. C'est le prix à payer pour vivre dans cette société, donc il faut payer le prix.
Dans votre dernier film dont on va parler dans quelques instants, il y a l'une des femmes qu'on voit non voilée, une photographe. Et je crois que lors d'une de vos incarcérations, vous avez fait une grave allergie aux piqûres de moustiques et vous avez vu dans tout Téhéran des femmes qui ne portaient pas de voile dans la rue. Et aujourd'hui, toutes les femmes ne portent pas de voile en Iran.
Oui, non, c'était pas des moustiques, mais c'était autre chose, oui.
Notre insecte. Oui.
C'est vrai que quand il y a eu Femmes et Liberté, on était en prison et on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. Et donc, moi, ça faisait un moment que ces insectes, en fait, me piquaient dans la prison et je n'arrivais pas à dormir. Et donc, rien ne marchait comme médicament qu'on me donnait en prison. Et donc, il fallait aller voir un dermatologue.
Et
ça faisait 2-3 mois que je demandais d'aller voir un dermatologue et finalement ils ont accepté et je suis allée voir ce médecin. Donc on entendait quand on était en prison les nouvelles de ce mouvement Femmes et Liberté, mais on n'arrivait pas à imaginer vraiment parce que ça faisait 4 ans qu'on avait vécu autrement. Pendant 40 ans, on avait vécu autrement et puis d'un coup, on est sorti et j'ai vu que les choses avaient vraiment changé. Parce que les femmes avaient dépassé les lignes rouges. Et personne n'arrivait à penser qu'on pouvait dépasser ces lignes rouges idéologiques du régime. C'était un grand pas et c'est pour ça que c'était important. Et j'arrivais à voir que les femmes voilées étaient à côté des femmes non voilées et ce n'était plus un problème. Mais ça faisait plus de 40 ans que le régime iranien en avait fait un grand problème.
Que se passe-t-il en Iran aujourd'hui ?
Voyez-vous, je pense que après Femmes et Liberté, l'histoire de l'Iran a été scindée en deux, avant et après le mouvement Femmes et Liberté. Et les gens, c'est plus clair maintenant pour eux le chemin. Il y a une clarté. Maintenant, ils ont une certitude et c'est le fait que ce régime ne pourra jamais être réformé. Alors aujourd'hui, c'est vraiment comme s'il y a une étincelle qui va exploser à un moment donné. Il y a une attente. Et pour que la situation s'améliore.
Je crois qu'il y a de plus en plus de rébellions dans les rues, par exemple des gens qui enlèvent les turbans des mollahs et partent en courant, qu'on peut voir sur certaines vidéos. Est-ce que vous le ressentez, ça ?
Oui, ça s'est passé exactement au moment de la naissance du mouvement Femmes et Liberté, cet exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on voit ça. C'est pas comme si tous les jours on fait ce genre de choses.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Jafar Panay, j'aimerais qu'on parle un peu de votre enfance. Vous avez réalisé un film documentaire sur une cérémonie de deuil musulman dans lequel des enfants regardent des adultes se flageller. Et vous, quand vous étiez enfant, il paraît que vous vous demandiez avec inquiétude, ferais-je comme eux quand je serai grand? Alors quel est le verdict?
Mon enfance s'est passée dans une famille ouvrière, dans le sud de la ville, les quartiers plutôt pauvres. Nos souhaits, nos espoirs étaient vraiment dans cette partie de la société, de cette classe sociale.
Et
c'était des choses assez simples qu'on voulait. Mais c'était difficile pour nous parce qu'on n'était pas, on n'avait pas beaucoup d'argent et donc ce que j'aimais beaucoup c'était d'aller au cinéma, moi vraiment. Mais il fallait quand même mettre tout l'argent de poche semaine sur semaine pour pouvoir aller voir un film. Où il y avait aussi une bibliothèque où on pouvait emprunter des livres pour lire des ouvrages, mais il y avait aussi une médiathèque dans laquelle on voyait des films. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le cinéma. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais fait un court-métrage.
Mais alors, justement, en parlant de cinéma, ce qui est assez frappant, c'est que la majorité de votre vie créative se passe dans la clandestinité. Et ça a commencé dès l'enfance, puisque votre père, qui adorait le cinéma, vous interdisait d'y aller. Vous y allez en cachette et vous avez commencé à voir des films de plus en plus indépendants pour être sûr de ne pas le croiser dans la salle.
Oui, c'est une habitude maintenant chez nous.
Et alors vos sœurs vous payaient, parce qu'elles n'avaient pas le droit de sortir, pour leur raconter des films. Ça, est-ce que votre art du récit et de l'imaginaire s'est développé quand vous aviez cette mission d'aller voir des films pour vos sœurs et de leur raconter? Surtout quand vous racontiez des films que vous n'aviez pas vus et qu'elles s'en rendaient compte.
Oui, il y avait des films. J'allais voir et je me disais, bon, c'est pas très intéressant pour moi, c'est pas très excitant. Donc, elles vont plus me payer. Donc, du coup, en fait, j'ai inventé l'histoire de film. Et je rajoutais des choses pour que ça devienne plus intéressant et pour que la prochaine fois, elle me paye encore plus pour que je puisse aller voir des films au cinéma.
Vous pensez que ça a eu une influence sur votre imaginaire, votre art du récit?
On ne peut pas dire qu'est-ce qui a influencé ou pas. Il y a des choses qui vont dans votre inconscient. Et puis à un moment donné, oui, ils peuvent sortir, en fait, et se montrer. Par exemple, dans Le Ballon Blanc, d'une manière assez simple, la petite, elle dit, je veux acheter un poisson. L'autre, il dit, c'est combien? Elle dit, ah, on peut voir deux films avec ça. Donc, c'est vrai que ça doit sortir de mon enfance, mais sans vraiment que j'y sois conscient.
D'un coup, je
me rappelle cette nostalgie que j'avais quand j'étais petit, et donc tu l'écris pour ton personnage.
Mais dans Le Ballon Blanc, si je me souviens bien, elle perd intégralement la somme d'argent qu'on lui a confiée. Je crois qu'il y a d'autres choses de l'enfance qui vous ont servi. Justement, vous n'aviez pas beaucoup d'argent et vous vendiez du sirop dans des stades de foot. Vous l'avez utilisé, ça aussi, au cinéma?
Je faisais différents petits boulots, en fait. Une fois, j'allais en fait travailler dans un magasin de verre. Je bossais un peu avec mon père. Parfois, j'allais dans les stades vendre des bouteilles d'eau ou aussi des sirops. Donc, j'essayais de me débrouiller, en fait. Et ce n'était pas du tout mal de faire tout ça. Je n'avais pas du tout honte, en fait. Et tout ça m'a sûrement influencé. Vous voyez, hors jeu, peut-être ça vient de de ça, puisque je vendais des choses dans ce stade. Je me rappelle quand on tournait là-bas avec le directeur de photo, on était en train de regarder autour de nous et je lui ai dit, quand je vendais des petites bouteilles d'eau ici, je ne pensais jamais venir ici pour tourner un jour.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va, merci.
Je vais tout droit, c'est bien votre chemin là, après le pont.
Oui, mais il est là le pont. Ah, le deuxième ?
Oui, oui, après le deuxième pont. Merci.
Merci.
Jafar Panahi, on entend la bande-annonce en français de votre film Taxi Téhéran et vous êtes par obligation devenu un roi de la discrétion. Taxi Téhéran est votre dernier film dont on va parler dans quelques instants, a été tourné en caméra cachée, aucun ours dirigé à distance, l'une des scènes de trois visages éclairées à l'iPhone sans puce pour ne pas être localisé par les services secrets. Je crois que vous préparez toujours deux scénarios et deux équipes de tournage ?
Non,
ça je pense que c'est exagéré vraiment, oui.
D'accord.
Oui, il ne faut pas faire trop de bruit, ça fait trop de bruit en fait. Il faut être discret, donc je dois me concentrer. Bon, peut-être qu'une séquence d'un film, tu te dis, bon, ici je dois filmer quelque chose. Et en plus, je vous parle des films avant 2009, tu regardes, il y a trop de monde qui te regarde, par exemple, et tu te dis, bon, pour qu'il ne soit pas là, tu vas mettre une autre caméra de l'autre côté, et voilà, tu peux faire deux équipes de films, non, j'ai jamais fait ça.
Votre interdiction de voyager, d'écrire ou de tourner a été levée, mais pour autant, vous continuez de travailler dans les mêmes conditions de clandestinité.
Parce qu'en Iran, quand tu veux travailler, il faut amener le scénario, montrer aux autorités pour qu'ils le lisent et puis te disent si tu peux le faire ou pas et puis te censurer. Donc si je voulais leur donner ce scénario, c'est sûr que je n'aurais pas eu l'autorisation de tournage. Et donc je le savais, alors en plus après, ils auraient su de quoi j'allais parler. Et donc, après, je n'aurais vraiment pas pu le faire. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en underground.
La seule sortie en salle qu'il y eut d'un de vos films dans votre pays, c'est Le Ballon Blanc. Et les autres films sont vus par les Iraniens en DVD pirate, sous le manteau. Est-ce que vous êtes triste de n'être célébré ouvertement que sur d'autres continents que le vôtre ?
Oui, bien sûr que je suis triste. Un cinéaste, quand on montre son film et quand il regarde son film avec les spectateurs, c'est là où il se rend compte des forces et des faiblesses de son film. Notamment avec les spectateurs de même langue. Et donc, quand tu fais un film sur ces gens-là, avec leurs problèmes sociaux, avec leur langue, c'est eux qui peuvent juger au mieux, en fait, ton travail. Et si tu fais un film et qu'il n'est jamais vu par les gens concernés, c'est vraiment, tu n'arrives pas à avoir le jugement nécessaire sur ton œuvre. C'est vrai qu'après, il voit ça illégalement, mais chacun regarde tout seul, pas en communauté, et où toi aussi tu peux y être.
Alors, vous avez été incarcéré 2 fois. La seconde fois, pendant 7 mois, vous avez fait une grève de la faim. Je voulais savoir 2 choses. Est-ce que votre vie, pour vous, compte moins que ce pour quoi vous vous battez? Et comment votre expérience avec les autres prisonniers a inspiré votre dernier film, Un simple accident?
Voyez-vous, quand tu fais une grève de faim, c'est une forme de contestation. Donc, ça peut être une contestation pour une situation donnée, pour tout le monde, ou quelque chose de personnel. Donc, c'est une contestation que j'ai faite, mais d'autres prisonniers aussi utilisent cette arme. On a quelqu'un, un activiste qui s'appelle Hossein Ronari, qui a fait cette grève de faim et qui est dans une très mauvaise situation aujourd'hui. Il est en train de contester. Il manifeste son mécontentement et nous avons écrit une lettre avec d'autres amis pour qu'il arrête cette grève de faim parce que sa vie est importante pour nous, pour le pays, pour le peuple, et il faut qu'il continue sa lutte. Mais lui, il a des demandes, et donc c'est pour ça qu'il fait cette grève de faim. Et alors, il faut mettre ça dans la lumière. Mais c'est la voie la plus difficile, et vous mettez votre vie en jeu. Mais il y a un moment où vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pouvez pas rester indifférent. Ça ne veut pas dire que ta vie n'a pas d'importance pour toi, mais ça veut dire que ce que tu penses, en quoi tu crois, est important, et donc tu penses que ça peut améliorer les choses.
ببین با من چیکار کردی چه صافت آشغال اقبال پا قشنگه
خدا تا الان اکوشت بوزه هم نخورده
خسته نباشیم من کارم عکاسی و فیلم برداری از عروسیه اومدیم اینجا یه 2 تا عکس بگیریم میریم سریع
اینجا؟
آره ویو با این قشنگی
کجا بره زندگی منو بگو کشیده حالا هم بره من یکی تو نفرمی خودش یعنی دست بردار نیستم
واقعا که
Jafar Panahi, on entend un extrait de votre dernier film, Un simple accident, qui a été tourné en caméra cachée. Il y a 2 acteurs avec lesquels vous aviez déjà travaillé dedans, Vahid Mobasseri et Majid Panahi, votre neveu, mais aussi des acteurs non professionnels, parmi lesquels, je l'ai appris en préparant l'émission, un arbitre de karaté, son neveu et un menuisier.
Tous mes films et les films de ce genre, dans ces films-là, en fait, on utilise en général des acteurs non professionnels. Oui, dans ce film, il y avait aussi des acteurs qui n'avaient pas du tout joué dans des films et d'autres qui avaient joué dans des films, mais plutôt dans des films underground. Et donc, pour moi, en tout cas, c'était excellent de travailler avec eux et je trouve qu'ils ont très bien joué dans le film.
C'était la première fois depuis 15 ans à Cannes que vous avez vu un de vos films dans une salle avec du public. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Je me rappelle quand le film est fini. Et on m'a dit qu'il fallait que je dise quelques mots. J'ai regardé mon équipe et j'ai vu qu'ils avaient des larmes aux yeux. Et il y en avait certains qui pleuraient même. Donc, ça se voyait que cette expérience était quelque chose d'important pour eux. C'était des pleurs de joie d'avoir cette expérience, de voir un film avec des spectateurs. C'était quelque chose de très important pour eux. Et moi aussi, j'avais ce sentiment-là.
Le tournage a été interrompu par les services secrets qui voulaient voir les rushs. Ça a été interrompu pendant 1 mois puisque vous n'avez pas voulu leur montrer. Qu'est-ce qui vous fait tenir ? Est-ce que vous avez peur ?
ببینید وقتی که قبول کردی چنین
کار رو بکنی
با مشکلاتی که به وجود میاد باید تقول
vous devez accepter aussi les problèmes. Donc il faut s'adapter. Je savais qu'on avait quasiment fini à ce moment précis. Il nous restait un ou deux jours de travail, en fait. Et donc je pouvais faire cette journée de travail beaucoup plus tard. C'était leur problème à ce moment-là. Et eux, ils pensaient qu'il nous restait beaucoup pour le tournage. Et donc, ils pensaient qu'ils avaient fait en sorte que le film n'allait pas aboutir. Et ils avaient dit à tout le monde, vous ne revenez plus sur ce tournage. Moi, j'ai en fait arrêté le tournage pendant un mois. Puis après, j'ai pris une toute petite équipe. En une journée, j'ai fait le reste, les plans qui étaient vraiment nécessaires. Et donc là, on a fini. Et voilà, donc on a fait ce qu'on avait à faire.
Vous dites que vous trouvez toujours des solutions aux problèmes qui se dressent sur votre chemin. L'adversité vous a-t-elle endurci ou affaibli ?
Le fait que je trouve une solution, que je cherche une solution, te donne de la motivation. Une motivation pour faire le film d'après. Et je sais que trouver des solutions aide une forme de cinéma en Iran. Ça aide les jeunes cinéastes qui veulent faire des films et qui ont du mal. Et quand ils te voient réussir, eux aussi, ils se disent, moi aussi, je peux chercher mes solutions et faire un film. Donc, et ça, c'est une vraie motivation, en fait, une motivation de vie.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Jafar Panahi, le début de votre dernier film, Un simple accident, est graphiquement très fort. On voit un couple dans une voiture, la femme est très tendre envers son mari, elle est enceinte. L'homme a l'air assez austère, les couleurs dominantes sont très sombres. Jusqu'à ce qu'une petite fille qu'on ne voyait pas à l'arrière bondisse dans le cadre avec des vêtements, une peluche colorée, se mette à danser joyeusement sur une musique qu'elle aime. Et puis, il y a le simple accident en question, on a l'impression, je ne dis pas ce qui se passe, mais on écrase peut-être un animal, on entend un cri. Et la mère essaye de rassurer la petite fille, elle dit « rien n'arrive par hasard, tout est envoyé par Dieu ». Et la petite fille répond, en parlant de son père, « il a tué un chien, ça n'a rien à voir avec Dieu ». Et quand j'ai vu cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la nièce du chauffeur de taxi que vous interprétez dans « Taxi Téhéran ». Elle doit réaliser un petit film pour l'école et elle s'étonne. Pourquoi le pouvoir a créé une réalité qu'il refuse ensuite que l'on montre ? La question est la suivante. Selon vous, les enfants voient l'absurdité plus que les adultes qui sont déjà écrasés par le joug social ?
Cette nouvelle génération est très différente de la génération précédente. La génération Z, pendant le mouvement Femmes et Liberté, a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans cette scène que vous décrivez, nous voulions mettre des indices pour le spectateur, pour que le spectateur garde ça en tête pour plus tard, pour comprendre quel est le profil de cette famille. Donc, c'est-à-dire que c'est un couple qui croit à une idéologie proche du régime. Et puis, cette femme, cette petite fille qui est le symbole de l'avenir. Et cet enfant ne croit pas à cette idéologie. On dit dans le film, nous n'avons pas de voisins. C'est la petite fille qui dit ça. Ou personne ne vient chez nous. Donc ça veut dire que cette famille est isolée. Donc c'est peut-être à cause du travail du père. Ce sont des indices, en fait, qui plus tard dans l'histoire vont aider le spectateur pour avoir des doutes, comme le personnage de Vahid.
Alors c'est un film sur le doute, puisque le personnage principal, c'est Vahid, qui croit reconnaître son ancien bourreau quand il était prisonnier, un agent des renseignements, ancien combattant de l'État islamique en Syrie, Erbal. Il veut le tuer, l'enterrer vivant dans le désert, mais il est tout à coup pris d'un doute, et si ce n'était pas lui? Et j'ai eu l'impression que c'était la trajectoire presque inverse du héros de votre film Sang et Or, puisque c'est la vengeance d'un type humilié, mais on va voir de plus en plus sa tendresse.
Que de la tendresse chez Vahid. Hein.
Bien sûr.
Il est simple aussi. C'est quelqu'un. D'un coup, en fait, il a vu quelque chose, il s'est excité, et après, il est face à une réalité. Et à un moment donné, d'ailleurs, la photographe lui dit c'est toujours toi qui t'excite comme ça d'un coup, c'est après coup, tu penses logiquement. En fait, c'est ce personnage, c'est aussi, aller en prison aussi, c'était aussi simple que ça. C'était pas quelqu'un qui était un activiste, en fait. C'était juste un ouvrier qui avait des problèmes économiques. Et donc, il avait des demandes juste au niveau économique. C'était rien d'autre.
Alors, il va aller voir plusieurs personnages pour savoir s'il a kidnappé la bonne personne ou pas. Tout le film est traversé de ce doute. Au début, personne ne veut l'aider à l'identifier. Et c'est aussi une réflexion sur le besoin d'approbation, de la validation des autres quand on n'est pas sûr de soi. Et aussi, l'influence que les autres peuvent avoir sur nous, même en racontant des choses fausses. Je pense par exemple à un personnage qui est le seul à être catégorique sur l'identité de l'homme kidnappé, je ne dis pas ce qu'il dit, c'est le plus dérangé de la bande, entre guillemets.
Nous avons essayé dans ce film de montrer différents points de vue. C'est-à-dire que chacun de ces personnages sont représentatifs d'une manière de penser en Iran. Il y en a un qui cherche plutôt la violence, l'autre qui est complètement contre la violence, et celui qui n'est ni dans l'un camp et l'autre camp, en fait. Et puis, il y en a un qui pense plutôt à l'avenir, comme celui qui travaille dans la librairie. Donc, tout ça sont ensemble, et donc, ils essayent de discuter et donner leur point de vue au spectateur. Et c'est le spectateur qui va décider de quel côté il veut être, en fait. Et donc, l'histoire avance plutôt correctement comme ça.
Alors je le précise pour les auditeurs, l'homme de la librairie, c'est le premier homme auquel le héros demande son aide pour identifier celui qui l'a kidnappé, et lui ne veut pas aller voir cet homme. En fait, on se rend compte que c'est un homme qui a gâché la vie de tout le groupe qui va l'identifier ou pas, et ça ouvre le champ à une réflexion philosophique, c'est-à-dire quand bien même ce serait lui, mériterait-il d'être tué? C'est la question principale du film. Est-ce que la violence se transmet?
Moi, je ne
voulais pas le penser comme ça, en tout cas. Je voulais dire et poser la question, est-ce que le cercle de la violence va continuer ou il va s'arrêter un jour? Mais bon, le fait que est-ce que ça transmet d'une personne à l'autre, ça je ne pense pas. Mais il y a une situation dans la société, il y a une structure en difficulté, en défaillance, et puis il y a quelqu'un dans cette structure qui fera des choix d'être dans un camp ou un autre. Donc ce n'est pas transmissible, mais plutôt c'est la société qui est en défaillance.
Il y a plusieurs de vos personnages pourtant qui se demandent s'ils ne sont pas en train de reproduire la violence qu'ils ont subie en prison.
Oui, certains de ces personnages. C'est-à-dire, Hamid, non, lui, il croit dans la violence, par exemple. Mais la photographe, non. Elle, la violence, c'est quelque chose qui la travaille.
Mais ça, Hamid,
c'est pas comme Hamid.
Alors on dit que dans les bonnes histoires, il faut à la fin de l'histoire atteindre un point de non-retour. Quand on écrit un scénario, vous, Jafar Panahi, le point de non-retour, il arrive vers 19 minutes de film et ensuite ça empire. Comment faites-vous pour mettre en scène une telle tension ? Tout est mystérieux dès le début du film. On ne sait pas pourquoi les personnages agissent ainsi, ce qui va se passer. Il y a une tension extraordinaire. Enfin, là, je vous félicite pour ça. Quel est votre secret ?
Madame, évidemment, c'est une interruption.
Je ne sais pas comment je fais. Mais bon, quand on écrit une histoire, on pense au début et à la fin. Pour moi, c'est très important. Quand je commence à travailler, j'écris d'abord le début et après j'écris la fin. Et après, je remplis entre les deux, en fait, pour arriver à la fin que je veux. Dans ce film, c'est exactement ce que j'ai fait. Je plante des indices au début, notamment au niveau du son. Et à la fin, ce son revient et c'est une réponse au début. À la séquence du début. Donc, quand tu commences bien ton film avec une séquence poignante, donc déjà tu sais que pendant 20 minutes, ton spectateur va suivre le film. Et donc, après 20 minutes, il faut réfléchir à autre chose pour que le spectateur reste avec toi. Et puis à la fin, voilà, tu mets le spectateur face à un dilemme, à une réalité, et tu lui dis, le film n'est pas fini ici. Sors de la salle de cinéma et continue le film.
Comme dans les films d'horreur.
Je ne regarde jamais des films d'horreur, mais c'est ma femme qui regarde ça. Dès qu'elle regarde, moi je me cache.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
C'est le standard de ce soir, Nat King Cole, Autumn Leaves. Jafar Panahi, il est temps de découvrir votre choix musical. entend, Jafar Panahi?
C'est la voix de Simin Ranem.
Le morceau, c'est Gole Golden Man.
Oui, Gole Golden Man, oui. Les fleurs de ma vase.
Ah.
Ouais.
Donc, à nouveau, faire de la beauté sur de la matière noire.
C'est une forme de nostalgie, peut-être de mon enfance ou de ma jeunesse.
Mais
ce sont des souvenirs, mais tu ne peux pas faire sortir des souvenirs de ta tête de toute façon. Et bon,
c'est,
la musique, c'est comme le film, en fait, comme le cinéma. Quand on te dit, donne le nom d'un film, et moi, je pense au voleur de bicyclette, en fait. Et d'un coup, je vois que inconsciemment, combien ça m'a influencé et a fait quelque chose dans mon cinéma, en fait.
Marie!
Che c'è? Che è successo?
Ma dimmi se non so disgraziato.
Che c'è, Antonio?
C'è il posto e non lo posso prendere.
È il posto? Senti, guarda che non ho capito bene.
All'altro!
Alors justement, j'avais prévu de vous faire entendre un extrait du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, sorti en 48. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert ce film ?
Avant ce film, j'aimais les films de Hitchcock. J'ai appris le cinéma un peu avec Hitchcock, en fait. C'était important pour mon cinéma. Il fallait que j'apprenne le langage du cinéma. Mais quand j'ai vu ce film, ce n'était plus la grammaire de cinéma qui m'intéressait, mais c'était par contre comment regarder le monde. Et c'est ça que j'ai appris, et ce qui arrive dans ma société, avec quel regard il faut les dépeindre après. Donc j'ai eu la grammaire et puis j'ai eu le regard avec ce film, et c'est devenu mon cinéma.
یه خبرنگار اینجا ازم پرسید گفت که این فیلمت هم شبیه فیلم قبلیت بود که پارسال اینجا نشون دادن دو سال قبل گفتم خب برای که خودم شبیه همون آدمی هستم که دو سال پیش اینجا بودم
یا کلکن جورنالیست که ما دومانده این ما دیزه که سو فیلم دا ایل رسامل ا وطخو پرسیدان فیلم جای دی وی پس که ما دوپی دو جان جم رسامل ا موامم دو
من نمیدونم این حرف کیه که علی باور دارم که میگن هر فیلم سازی فقط یه فیلم بیشتر نمیسازه
Je sais pas qui est-ce qui a dit, mais on a dit qu'un cinéaste, il ne fait qu'un seul film.
Et
donc, il fait des fragments et il le fait en plusieurs années, ce film-là, c'est un seul film.
Abbas Kiarostami en 94 sur RFI. Jafar Panahi, vous avez collaboré avec lui sur son film à lui, Au travers des oliviers, et lui sur son, votre film Le ballon blanc. Quel souvenir avez-vous de lui ?
Quand j'ai fini l'université, avant j'étais déjà assistant pour d'autres cinéastes, j'avais aussi fait des courts-métrages, j'avais mes expériences à moi, et après l'université j'avais envie d'avoir une nouvelle expérience, et c'est là où j'ai rencontré Abbas Kiarostami, et il voulait faire donc ce film-là, et donc je l'ai contacté et je lui ai donné mon CV et je lui ai dit combien je voulais travailler avec lui, et heureusement il a accepté, et à partir de ce moment-là on a eu vraiment une très bonne relation, et puis on est resté côte à côte tout au long. C'est vrai que pour mon premier film, il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que moi, au départ, je voulais faire un court-métrage, j'avais le sujet, et je voulais le faire pour la télévision iranienne, et j'allais commencer, et on était en train aussi de faire le montage de films de Kiarostami, et donc il m'a appelé, après il a appelé la télévision, et il a dit à la télévision, moi je connais Jafar Panahi, il a travaillé avec moi, ça a l'air d'être un très bon sujet, il faudrait que ça devienne un long métrage de fiction. Et donc ils ont accepté. Et donc c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier long métrage en fait. Et c'est très important au début que quelqu'un vous fasse confiance, quelqu'un d'important, et te donne la possibilité de faire ton premier long métrage. Et là après c'était devenu plus facile.
On arrive à la fin de cette émission et j'ai appris en la préparant qu'en farsi, il y avait plein de mots français comme bactéries, bandages, béton armé, décoration ou omelette. Je terminerai par un mot qu'on entend dans vos films. Merci. Merci. Jafar Panahi. Merci. Un simple accident est en salle depuis ce matin et c'est un film très très fort. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Louise Tempero, Fanny Leroy et Franck Olivar. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Fabrice Desmaz. Et merci à Assal Bagheri pour la traduction.